Armand Sylvestre, conte audacieux. Le phonographe Doudou. C'est un phénomène avéré aujourd'hui et qui pourrait bien ne pas être étranger à ceux de la suggestion que les plus grandes découvertes de l'humanité ont été effectuées simultanément sur plusieurs points à la fois du monde civilisé. Au moment où Le Verrier découvrait une planète par la magie des calculs, elle était vue avec des instruments nouveaux par un autre astronome. On dirait que certaines vérités sont dans l'air, que plusieurs yeux surprennent à la fois. On vous dira à l'Académie des sciences que plusieurs mois avant les communications de M. Edison, un mémoire était déposé par un excentrique de génie, excellent poète d'ailleurs, ce qui prouve que les faiseurs de vers ne sont pas d'aussi inutiles rêveurs qu'on l'imagine. Charles Cros, mort il y a quelque temps seulement, et où était décrit le phonographe, lequel devient bel et bien alors une invention française. Ce que je vous dis là n'est nullement du domaine de la fantaisie, et vous pouvez le demander de ma part aux savants de vos amis. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le modeste docteur Doudou, inconnu même comme poète, ait en même temps que Charles Cros imaginé aussi sous une autre forme ce merveilleux appareil où les sons demeurent comme les vins dans une cave, ou mieux comme les livres dans une bibliothèque, car ils y empirent plutôt qu'ils ne s'y améliorent, et la postérité pourra croire que tout le monde parlait du nez en ce temps-ci. Lui aussi, l'infortuné Doudou, moissonné à la fleur de l'âge, avait commencé son mémoire, mais n'avait pas eu le temps de le finir. Une préoccupation particulière avait présidé pour lui aux détails de l'instrument. Il était destiné surtout, dans sa pensée, à recueillir les dernières paroles des mourants, qui faisaient ainsi durablement leur disposition dernière. Son phonographe avait la forme d'un portefeuille que le notaire pouvait mettre, en s'en allant, sous son bras. Il faisait un mouvement de soufflet, donné au repli du maroquin, pour en faire sortir les paroles emmagasinées. C'était, comme vous le voyez, une façon d'accordéon, dont la musique était faite de notes entendues. Extrêmement sensible d'ailleurs, et d'une fidélité complète. Ah, les héritiers qui ont capté des testaments n'auraient pas été à la noce. C'est contre eux que l'excellent Doudou, qui avait été proprement dépouillé par ses collatéraux, avait inventé surtout cette machine de guerre. Aussi est-ce dans le mystère le plus profond de son laboratoire qu'il l'avait confectionné, s'enfermant pour y travailler, et n'en confiant les pièces qu'à des ouvriers ne se connaissant pas les uns les autres, comme on fait pour quelques pièces nouvelles d'artillerie. Quand donc il eut exhalé son âme, avec le regret de n'avoir pu doter ses contemporains de ce chef-d'œuvre, on ne prit pas garde à ce faux portefeuille qu'on laissa dans un coin, comme une vieillerie inutile. La maison fut occupée par de nouveaux locataires, et dans la pièce où il était resté, une femme et son enfant furent logés. Le moutard passant son temps à crier, et sa mère à le gourmander dans un langage fort peu académique. Et l'instrument, demeuré entr'ouvert, retenait tous ses entretiens familiaux, voire jusqu'aux pétarades du gosse. Ce qui en faisait un magazine d'un nouveau genre est tout à fait shocking pour des Anglaises de distinction. Tandis que cette chambre où Doudou avait élucubré ses inventions, pleine si longtemps de recueillement et de silence, avait reçu cette si différente destination, le reste de l'appartement qui en était séparé était occupé d'une beaucoup plus riante façon. Monsieur et Madame Lavaissancœur s'y préparaient à recevoir deux jeunes époux, leurs cousins, qui avaient voulu venir faire à Paris leur nuit de noces. Je n'ai jamais beaucoup compris le voyage dont on fait précéder ordinairement cette cérémonie familière. D'aucuns prétendent que le tressaillement du chemin de fer a d'aphrodisiaques propriétés. Mais je veux croire que les fiancés de mon temps n'ont plus besoin de cet apéritif. Enfin, Philippe et Augustine, ainsi s'appelaient nos jeunes gens, avaient voulu profiter de l'occasion pour voir l'exposition. Augustine voulait montrer la tour Eiffel à son mari. Hoc signo vinces, pensait en latin cette personne qui avait passé son baccalauréat. Ah, si j'avais encouru la rigueur des saintes lois de l'Hyménée, comme j'aurais autrement compris le décor du suprême sacrifice. Un coin de nature bien mystérieux, avec tout au loin et presque imperceptible un murmure d'eau qui coule et vous mesure le temps béni des caresses, attend les baisers avec le bruit monotone de ses flots. Peut-être un frémissement de feuillage derrière la croisée, comme le bruit d'ailes des rêves qui s'en vont. C'est dans cette thébaïde que j'eusse aimé respirer comme une fleur sauvage le parfum vivant des virginités vaincues. Mais le bruit des fiacres sur le pavé, l'essoufflement de la grande ville après ses rudes travaux de la journée, le râle des ivrognes au coin des murs, non, non, je n'aurais pas voulu de cela pour épithalame. Philippe et Augustine n'étaient pas de mon goût, voilà tout. Leurs bons parents, qui venaient seulement d'emménager, avaient toutes les peines du monde à leur installer un nid dans ce chaos. Cependant, madame l'avait sans cœur, qui était essentiellement pratique, attendait que le plus grand confortable fût mis au service de l'épreuve délicate dont sa demeure allait être l'insensible témoin. Tout ce qui sert aux ablutions réparatrices avait été prévu. Et le lit nuptial, des draps dont le toucher était lui-même une caresse, avec un parfum d'iris vague dans la blancheur du lin. Avant d'y étendre cette lingerie, la même madame l'avait sans cœur assura à son époux qu'il fallait essayer cette couche, où allaient s'agiter les destinées sacrées de sa race. Le vieux renâcla bien un peu, mais les matelas n'en furent pas moins éprouvés et jugés d'un moelleux suffisant pour leur voluptueux office. « J'aimerais cependant, fit madame l'avait sans cœur, qu'on y eût les reins un peu plus soutenus. Il n'y a qu'à mettre un oreiller entre les deux matelas, au milieu, ou un coussin, répondit monsieur l'avait sans cœur. Ça donnera plus de prise, en effet. » Et sur cette conversation philanthropique, ils cherchèrent un coussin. « Mais, fit soudainement l'avait sans cœur, notre sous-locataire, la voisine, a chez elle un vieux portefeuille de cuir qui ferait l'affaire admirablement. C'est suffisamment élastique et moins volumineux qu'un oreiller. « Tu as raison, mon chéri, » lui répondit sa femme, qui, depuis l'expérience du lit, était de la plus charmante humeur du monde. « Va le chercher. » Et c'est ainsi que le phonographe Doudou, qui devait révolutionner le monde, fut installé entre deux couches de crin végétal. En le transportant, monsieur l'avait sans cœur crut bien entendre un bruit insolite, suivi de cette apostrophe. « Vas-tu te taire, cochon ?» Mais il n'y prit pas garde, dans le grand empressement de la besogne où il était. Tout cela fut d'ailleurs un peu indistinct, parce qu'il ne pesait ni assez, ni régulièrement sur le soufflet, dont le ressort était devenu très dur, par l'effet de la rouille et de l'inaction. Ce n'est jamais sans une émotion, où éclate mon innocence originelle, que je pénètre dans une chambre nuptiale. C'est là que va se briser le fermoir que tenait clos le livre éternel et redoutable des destinées. Est-ce un signet rose ou un tragique signet couleur de sang qui va y marquer la page fatale? Tout m'est solennel et sacré dans cette demeure du sphinx que Dippe interroge et qui répond souvent à Sganarelle. Il nous faut bien pénétrer cependant dans cet asile des pudeurs suprêmes, où nous attendent Philippe et Augustine, sans trouver d'ailleurs le temps démesurément long. Car Philippe est fort sincèrement épris de sa fiancée, et c'est avec de véritables ivresses d'amour qu'une à une, il fait tomber les pièces de l'armure liliale, dont ses exquises nudités ne seront plus bientôt défendues. Le casque de gaz est tombé dans un effeuillement de fleurs d'oranger. Tombait aussi la cuirasse de satin, où la gorge était enfermée, et un cliquetis de soie avait marqué la chute des jupons sur le tapis. Le papillon avait jailli de sa chrysalide de neige, avec des grâces pour elle, et tout un printemps de chair jeune, parfumant son envolée, avec des caprices déjà dans l'essor. Et comme des boutons de rose qui s'ouvrent, une floraison de baisers lui était venue aux lèvres pour fêter cette aurore, aux déshabillés de brume fuyante. Doucement, avec l'épaule, la poussant, puis la portant presque, Il l'avait conduite au bord du grand lit ouvert. Et quand elle s'y était pudiquement étendue, la couche s'écrasant délicieusement sous son poids, un étrange soupir avait été entendu, qui semblait sortir des profondeurs mêmes du lit, suivi de ces mots à peine distincts. Encore, Salopio. Tous deux avaient entendu, mais tous deux se crurent le jouet d'un rêve. C'est après avoir refermé chastement les rideaux que nous écouterons encore. Pour le coup, le portefeuille avait dû recevoir une rude pesée, car c'est une voix de tonnerre qui cria « Attends un peu, polisson !» Philippe sauta à bas du lit. Il était très pâle et tout tremblant. Il chercha partout dans la chambre si quelque fumiste ne s'y était pas caché. Rien. Mais il avait perdu toute audace en se remettant dans les draps, et ce fut un long silence qui signala sa rentrée. Puis la musique des baisers recommença, lente d'abord, accélérant son rythme ensuite. L'ange gardien des voluptés licites et conjugales faisait entendre comme un frémissement d'ailes dans les plis refermés des rideaux. « Essaye un peu de recommencer, malpropre !» fit encore la voix redoutable, et un bruit épouvantable de fessées retentit sous le baldaquin. Monsieur et madame l'avaient sans cœur qui veillaient, anxieux, dans la chambre voisine, accoururent, d'autant que la fouettée était accompagnée en contrepoint d'une criaillerie effroyable d'enfants qu'on bat. Ils arrachèrent Philippe du lit en le traitant d'assassin, et tout cela finit par une mêlée abominable dans l'obscurité, tandis que, sous les convulsions de la pauvre Augustine, demeurée seule au lit, le phonographe Doudou continuait à piailler de plus belle. « Ne me parlez plus jamais d'invention aujourd'hui.